Martin Ashford est foudroyé comme un lapin en plein vol.
Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille.
Salut Hugo.
Salut Gwen.
Ça va?
Non.
Ah bah tant mieux. Alors voilà, je voulais faire un petit introducing, comme on dit dans l'argot cinématographique actuel. Tu sais Hugo, c'est que finalement ATC va être entendu dans le monde entier. Et oui, 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 les grands réalisateurs nous entendent. Parce que là, je viens de revoir un petit magazine et je viens de découvrir...
Alpe Magazine
que... Oui, voilà, c'est ça, Alpe Magazine, voilà. On vient de s'apercevoir que notre cher Quentin Tarantino se lance dans le western. Et oui, après avoir écouté ATC, il se lance dans le western, un fameux Django Unchained, avec Leonardo DiCarpaccio, lui-même, qui va jouer Calvin Candy, qui sera un esclavagiste qui organise des combats d'esclaves, avec Jamie Foxx, qu'on avait vu dans le film Ray, qui lui sera le héros, et avec notre cher ami Christopher Waltz, qui va jouer un chasseur de...
Et Emmanuel.
Voilà, non, non du tout. Qui lui sera un chasseur de primes. Et ça s'appelle Django Unchained. C'est en tournage. Et puis aussi, un autre qui a écouté notre émission, qui va se lancer dans le Wushu, c'est Wonka Wild, qui va faire bientôt un film qui s'appelle The Grandmaster et qui sera la biographie du légendaire maître d'arts martiaux Ip Man. Voilà. Et puis aussi, le fameux Olivier Dahan se lance. Il a écouté notre émission quand même et puis il se lance dans un film sur le football que je parlerai plus longuement, voilà, avec
c'est
les grandes stars du comique.
Comment
en ce moment.
Tu sais des choses.
Mais oui, voilà.
C'est donc ça d'être en ville.
Eh ben voilà, parce que tout ça pour ça, on se lance aujourd'hui. ATC se lance sur le sport. Comme dirait un de mes compatriotes, vive le sport sur Ardèche, vive le sport sur Oie, vive le sport sur Erdivois. Voilà.
Je sais pas ce que tu as pris, mais t'as pris, toi. T'as croisé qu'on t'adore, non?
Ouais. Là, on est là, c'est stade 2, là. Ah, c'est le sport, c'est, tu avances rien, tu lâches rien, c'est l'impact physique, tu donnes.
On n'est pas sur RMC, tu vas te calmer Moscato. Hein. Alors, quel est le sujet aujourd'hui Gwen?
Eh bien le sujet c'est le sport dans le cinéma.
Ah pas le cinéma, le sport. Parce que bah, moi j'ai fait le cinéma et le sport, alors on s'est peut-être trompé.
Non mais si, bah oui, il me fait peur des fois.
Du Romain de Carpentier à Invictus, en passant par les Blancs ne savent pas sauter, Rasta Rocket, The Wrestler et bien d'autres, le cinéma fait du sport et le sport fait du cinéma. Et l'initiative d'amener le sport sur le grand écran est largement récompensée. Puisé ou non dans la réalité, le film sur le sport ont pour la majorité des messages forts à transmettre. Le dépassement de soi, ça tu connais pas. La réconciliation avec soi-même et avec les autres. Le pardon. C'est quelque chose avec Roger Hanel.
Non, non, mais ça, le pardon, moi ça non plus je connais pas.
Il me semble. Un je ne sais quoi qui nous donne des frissons.
T'écoutes du France Gall, toi, maintenant?
Oui, ça y est, c'est nouveau pour moi. Incarné par des grands comédiens comme Robert De Niro et sa cultissime réplique
« You fuck my wife. »«
What ?»«
You fuck my wife. »
dans Raging Bull.
Raging.
Comme Rage Against the Machine. Yes, sir. En 1981, mais également Mickey Rourke qui signe son retour avec une excellente performance d'acteur dans The Wrestler, sans oublier le cri mythique de Rocky Balboa.
Adrien !
Merci. Des scènes ou des répliques cultes restent dans nos têtes. Un des derniers films de notre cher Clint Eastwood, Invictus, nous offre un moment fort de l'histoire. En 1995, sous le régime de l'apartheid, la Coupe du Monde de rugby se joue en Afrique du Sud. Nelson Mandela, élu président depuis peu, homme sage, serein et plein de convictions, va mener un combat pour le pardon et la réunification de son peuple grâce à ce match. Ce film retrace l'histoire d'un homme, d'un peuple, d'une nation qui se hisse près des cieux grâce au rugby. Le cinéaste a réussi à retranscrire toute l'intensité de ce moment fort du sport. C'est en cela que le cinéma et le sport font un mélange parfois magique. Ils représentent à eux deux un vecteur d'émotion que les quidam qui se désintéressent du sport sont amenés à ressentir grâce au grand écran. Le 7e art nous donne l'occasion de revivre des moments importants de notre histoire. Nous avons été touchés par des films tragiques retraçant au nom des histoires vraies, tels que Million Dollar Baby, mais le cinéma nous offre également de fabuleux films comiques dans lesquels les scénarios les plus farfelus imaginent masculin des personnages pour le grand bonheur de nos zygomatiques. Ces films nous donneraient presque envie de nous remettre au sport, pour ceux qui en pratiquent déjà. Tu l'as dit presque, hein. Ça fait rêver.
Oui, tout à fait.
Capable de l'impossible, le cinéma peut même faire jouer l'un des grands joueurs de basket avec des toons comme Michael Jordan dans Space Jam. Ok ?
Ouais.
Si ce n'est pas extra, ça, mon petit Gwen ? D'accord, il s'en fout. Le temps d'un documentaire où, pour un film, les sportifs sont parfois amenés à jouer sur un terrain de jeu bien différent. S'il n'est pas un but en soi, le métier d'acteur est néanmoins à leur portée et pour preuve, nombre sont ceux qui ont réussi à la reconversion. Tout à l'heure, je parlais de notre ami, l'ex-rugbyman Vincent Moscato, qui donne la réplique à notre GG national dans 36 quais des Orfèvres. Nous pouvons aussi citer une mascotte, un emblème du foot franco-anglais, Eric Cantona, qui joue son propre rôle dans un film poignant sur un fan de foot qui se surprend à voir son idole dans son imagination. C'est Looking for Eric de Ken Loach.
Ouais.
Bon, il en a fait d'autres aussi.
Cantona.
On le retrouve aussi dans Les Enfants du Marais. Mm-hmm. Et il y en a un autre aussi qui est sorti dernièrement. Il joue le rôle d'un flic. Là, ben, je sais plus trop.
Oui, puis il y a aussi l'entraîneur de l'équipe de nains.
De nains ?
Bah oui, dans Kaira.
Ah oui. Autant pour toi. Qu'il soit devant la caméra ou pas, le sport nous envahit, nous transporte, nous motive et nous donne l'envie de nous surpasser. Il est un vecteur d'unité, de solidarité et il est depuis toujours un lien fort que nous recherchons et que nous souhaitons préserver. Le cinéma est, virgule, lui, pour nous rappeler à quel point le sport, quel qu'il soit, est primordial dans une vie. Bon, ben, j'ai fini. Au revoir, merci d'être passé sur ATC.
Voilà. Eh ben, super mon petit Jean-Mimi, hein ? Tout à fait. Alors, superbe passement de jambes. Eh bien, voilà, oui, donc le sport dans le cinéma dans le sport.
Bon, c'est cool, merci.
Voilà, c'est ça. Eh bien, voilà, effectivement, on peut commencer par le film Invictus de Clint Eastwood qui est sorti en 2009.
Non, mais je voulais dire encore un petit quelque chose. C'est prêt pour t'embêter. Donc, comme j'en avais parlé la semaine dernière, c'est donc le premier film, c'est fait par les frères Lumière. Consacré au sport, s'appelle On course en sac en 1896. Il y a aussi le plus important festival consacré aux films sportifs et le festival Sport Movies and TV de la Fédération Internationale Cinema Televisione Sportif qui se tient chaque année à Milano.
Si.
Voilà. Donc on peut dire aussi en matière de récompenses, comme j'en parlais tout à l'heure, citons les chariots de feu. 4 Oscars, Million Dollar Baby, 4 Oscars aussi, Grand Prix 3, c'est sur la Formule 1, Rocky 3, Box, Raging Bull 2, Box, L'Arnaqueur Billard 2, Sang et Or 1, Vainqueur du Destin 1, Le Ciel peut attendre 1, Le Champion et Coup de Tête 1.
C'est bien. Coup de tête, voilà. Et ben,
balayette aussi.
Voilà, c'est ça, bien connu, oui. Donc, moi, je proposais qu'on commence effectivement par, comme tu disais, le fameux Invictus de Clint Eastwood, qui est donc sorti en 2009, et qui raconte, comme tu disais...
On a déjà parlé avec Clint Eastwood.
Oui, tout à fait. Oui, non, mais ça fait partie aussi. Donc, cette histoire où donc Nelson Mandela, Morgan Freeman,
oui,
commence son premier mandat en tant que président du pays et contre l'opinion de ses partisans, il sent dans l'événement sportif la possibilité de créer un sentiment d'union nationale derrière l'équipe des Springboks, symbole durant des décennies des Blancs d'Afrique du Sud. Oui, parce qu'il faut quand même le savoir, c'est qu'en Afrique du Sud, les Noirs, eux, jouaient au football et les Blancs, eux, jouaient au rugby, donc le fameux sport de voyous fait par des gentlemen au lieu des voyous qui jouent un sport de gentlemen. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que souvent, en Afrique du Sud, les Noirs n'avaient pas le droit de se réunir à plusieurs et que c'est que dans les stades de foot, pendant les matchs, que l'ANC pouvait avoir ses réunions politiques. Et c'est vrai que quand Nelson Mandela est arrivé au pouvoir, les Blancs ont quand même perdu beaucoup. C'est un peu une logique, hein, de la chute de l'apartheid. Et que leur dernier symbole, c'était les box, et qu'effectivement, Nelson Mandela a quand même très bien fait, puisque l'Afrique du Sud a gagné sa Coupe du Monde, comme la France à son époque en football, dans le pays organisateur. C'est toujours un peu chelou, surtout que ce qu'il faut savoir, c'est peut-être ça a été pas raconté dans le film, mais il y avait quand même des histoires comme quoi l'arbitre du match France-Afrique du Sud était un petit peu, un petit peu aidé, hein. Et puis qu'il a apparemment eu des vacances grâce à la Fédération Sud-Africaine de Rugby.
du fameux Louis Luit, qui paraît-il a été très très arrogant pendant la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, on ne voit pas la scène dans le film, mais c'est quand il fait un discours, il a été très arrogant et l'équipe, je crois que c'est l'équipe d'Angleterre et l'équipe de France qui se sont retirés avant la fin de son discours, à ce brave monsieur. Et que aussi l'équipe néo-zélandaise avait eu une intoxication alimentaire 2 jours avant le match, et c'est une fameuse Suzy qui aurait-il qui apparemment les aurait empoisonnés.
Bon, enfin, nous en France, on a Zaga.
Voilà, c'est ça. Chacun a sa mascotte. Hein. Et c'est vrai que quand Mandela transmet au capitaine des box, donc ce fameux François Pinard, qui est joué par Matt Damon, un poème de William Ernest Henley, dont est tiré le titre du film, Invictus, « I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul ». Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Il y a tout ce passé que Nelson Mandela a eu sur Robben Island, enfermé avec ce poème. Et il sent que, tout comme je pense l'a été Gandhi, c'est qu'effectivement, il y a besoin d'une unité. Et c'est ça aussi pour ça qu'effectivement, le sport, je pense, réunit. Parce que je voudrais quand même rappeler à tous nos auditeurs cette fameuse victoire le 12 juillet de l'équipe de France, et que dans les rues on parlait quand même d'une équipe, d'une France, et 3-0 d'une fameuse France Black Blanc Beurre qui s'est un peu écroulée par la suite, mais voilà, à cette époque là on était tous unis sous le maillot tricolore, et c'est vrai que ce sport a quand même, et on le verra au fil de tous ces films, c'est que le sport a quand même une union que d'autres liens n'ont pas, quoi. Parce que je pense que quand on regarde le Mona Lisa, ou quand on écoute un monologue de Shakespeare, on n'est pas autant unis que quand on...
Ça dépend des personnes.
Non mais ça, je suis d'accord avec toi Hugo, mais n'empêche que voilà, qu'on est dans un stade de foot. Alors effectivement, c'est un peu aussi un défaut, parce que effectivement, on connaît quelques dictatures qui ont fait gagner leur équipe nationale pour souder leur peuple derrière eux aussi.
Donc c'est vrai que c'est une belle soudure.
Voilà, c'est ça. Et même après, ça a été souvent une dessoudure, parce que je pense qu'il y a certains stades en Amérique du Sud qui ont servi quand même.
Il y en a même qui sont fait dessouder. Je me souviens d'un joueur qui a raté un péno là.
En Colombie, ouais, voilà. Le fameux Colombien là qui avait marqué contre son camp.
Dessouder,
voilà, contre les États-Unis, qui avait été abattu. Pour moi, quelque part, Invictus de Clint Eastwood reste quand même techniquement l'un de ses meilleurs films, surtout. Et c'est parce que c'est aussi un film à part de toute sa filmographie, parce qu'il y a quand même un porteur d'un message grâce au sport, effectivement. Voilà, et qu'il résume bien ce que le sport véhicule dans le milieu du cinéma. Donc cet enthousiasme, ce dépassement de soi, et non pas pour soi, mais pour son pays. Tu vois, c'est ça, c'est pas le côté nombriliste.
Du sport, hein. Sport individuel.
Oui, non, mais ça, il y a le dépassement de soi, mais on essaye souvent, parce que tu te bats pour l'équipe, tu te bats pas pour toi, parce que c'est un truc égoïste. C'est que dans le sport, c'est tu te bats pour ton équipe. Alors, c'est sûr qu'en boxe, ouais, l'équipe, elle est un peu du rail. Et en même temps, voilà, t'as ton coach derrière, t'as ton Adrienne qui t'attend.
Il faut te calmer. Fais-moi une série de pompes. Les scénarios puisent souvent dans la réalité, ainsi quelques films font office de biographie. On citera Les Chevaliers du Le Chevalier du Stade, basé sur la vie de Jim Thorpe, donc Edith et Marcel, sur Marcel Cerdan, ou Les Chariots de Feu, qui s'appuie sur certains membres de la délégation britannique d'athlétisme pour les Jeux Olympiques d'été de 1924 à Paris, capitale de France. Les scénaristes inventent aussi des sportifs et des clubs fictifs. Côté sportif, signalons le joueur de baseball Roy Hobbs, c'est-à-dire Robert Redford, dans Le Meilleur. Ouais. Le footballeur Francis Perrin, Patrick Dewaere dans Coup de tête
Patrick
balayé.
Dewaere,
oui. Mais moi je prononce à l'anglaise. Dewaere.
Ouais, Dewaere brisé, on l'appelait à la fin de sa vie même.
Oh, alors ça c'est vraiment. C'est dingue. Le cycliste Gilles Lambert dans Benoît Paul Vordeux dans Le Vélo de Gilles Lambert, ou Gilles. Comment je prononce alors, monsieur Gwen?
Gilles, oui, oui.
Merci. Ou le boxeur Rocky Balboa, Sylvester Stallone, dans la série of Rocky.
Voilà.
Côté club, donc on peut avoir Roy Hobbs, donc il évolue au New York Knights. Perrin, il joue au FC Trékin.
Ouais, Trékin, ouais, ouais.
Trékin.
Ouais, ouais, et puis, enfin, ça, on en parlera plus tard, oui. Mais il y a un sacré acteur avec lui. Hein.
Oui, c'est cela, oui. Il s'appelle Giroud.
Voilà, c'est ça. On l'a vu dans Célestine. Elle est si bonne.
Comment ça s'appelle? Les pièces de. détaché d'automobile aussi.
Oui, aussi. Putain, quel acteur, moi, je dis.
Je suis pas publicité, c'est interdit. Et Lambert chez Epedex. Je crois que même il avait commencé chez Magic Crème. Les scénaristes inventent même des sports comme le rollerball, ouais, le dodgeball et le basketball. Basketball. C'est pas de la baise.
Oui, oui, non, mais.
Je te vois tout de suite. Voilà. Tes yeux qui rugissent de plaisir.
Non, du tout, du tout. Alors là, tu vas au-delà de la limite. Alors, oui, alors, effectivement, on parle de films, on parle de films. On va se lancer dans la catégorie boxe.
Et les nominés sont...
Les nominés sont Raging Bull 1981 avec de Martin Scorsese, avec l'Oscar du meilleur acteur Roberto De Niro, puisqu'il joue le fameux Jack LaMotta. Puisque Raging Bull, c'était le surnom de Jack LaMotta, qui était un boxeur poids moyen. Alors, les moyens, c'est les moins de 90 kilos, qui ne font pas confondre avec ceux qui ont moins de 80 kilos, c'est-à-dire les mi-moyens, et ceux qui sont moins de 100 kilos, qui sont des mi-lourds. Et c'était un boxeur des années 60. Donc, séduit par l'autobiographie écrite par le champion, De Niro propose à Scorsese de l'adapter. De Niro s'est entraîné pendant un an avec LaMotta lui-même. Et une fois les scènes de boxe filmées, l'acteur a dû prendre 30 kilos pour les besoins du film. Et il est allé, d'ailleurs, il est allé en France, hein, dans les restaurants 3 étoiles pour prendre du poids. Donc, tu vois, la France, ça vous gagne. Et Scorsese, sur ce film, a surtout voulu insister sur la déchéance et l'autodestruction du personnage principal.
C'est LaMotta qui avait défait Marcel Cerdan.
Oui, et le fameux Sugar Ray Robinson aussi.
Il avait été blessé, quoi. Il voulait sa revanche et justement, c'est l'avion qui s'est écrasé.
Voilà,
sur,
c'est ça.
Et puis l'île de San Miguel.
L'avion s'est écrasé.
Marcel! 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 Marcel!
Puis en fait, c'est-à-dire que autant Jack LaMotta a réussi en tant que comment ça s'appelle, boxeur, autant sa vie privée a été un total échec puisqu'il est divorcé, il était d'une jalousie possessive, le fameux « you fuck my wife ». Et d'ailleurs, ensuite, il y a toute sa reconversion en tant que dirigeant d'une boîte de nuit assez minable. C'est vrai que c'est montré une autre image du sport où effectivement, bah, c'est pas que les victoires, enfin du moins il y a de la victoire sur le terrain, mais aussi les défaites et les victoires dans la vie privée. Un autre film aussi, dans un grand champion de boxe, c'est le fameux film Ali de Michael Mann en 2009, qui retrace les combats du boxeur Mohamed Ali sur et en dehors du ring. Et là, bah aussi, notre ami Will Smith a dû prendre plus de 17 kilos. Et c'est l'ancien entraîneur d'Ali, Angelo Dundee, qui n'a rien à voir avec Crocodile, qui a conseillé l'acteur pendant sa préparation. Et George Foreman est interprété par Charles Schoenford, qui était un boxeur professionnel. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça retrace aussi certains pans de l'histoire américaine aussi, puisque tous ces athlètes qui avaient des noms, je dirais, européens et qui ont pris des noms musulmans via tout ce qui est la politique des Black Panthers, donc la réappropriation des noms chers à Malcolm X et dont on faut souligner aussi l'un des grands événements, c'est en 1968 à Mexico, le fameux point levé de Tommy Smith et John Carlos, qui était le vainqueur et le troisième de 200 mètres des Jeux de Mexico. Le fameux point levé, tu sais, avec le...
Qu'est-ce que ça vient faire avec la boxe?
Non, mais ça n'a rien à voir, mais c'est-à-dire que c'est aussi Mohamed Ali.
Comment se retrouvent les auditeurs et tristes?
Triste, oui, c'est ça. Mais non, mais je veux dire, ça fait aussi partie des personnages de Mohamed Ali. Voilà, parce que toute cette période Black Panther, ça a été ça. Je veux dire, quand il n'a pas voulu aller faire ses services militaires aussi, ça a été important. Je veux dire, ça fait partie du personnage et de tout ce mouvement aussi, des luttes des Noirs pour leurs droits civiques.
C'est vrai.
Voilà, ça fait partie du personnage de Mohamed Ali. Alors, effectivement, ça n'est pas dans le film, mais moi, je pense que c'est quand même important à un moment de le dire, parce que le sport est là aussi, a aussi quelque chose de politique, comme on l'a parlé il n'y a pas si longtemps avec Invictus. Parce que c'est ça aussi qui a permis de souder le pays d'Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel. Tu voulais rajouter quelque chose sur Ali?
Allô?
Ali Alou, d'accord, ok. Et le, sans doute le boxeur le plus connu au monde, notre cher fameux Rocky Balboa.
Oui.
Voilà, parce qu'en fait, Balboa, le personnage, c'est Sylvester Stallone qui a créé cette saga qui a été commencée en 76.
Oui.
Et qui est née dans la tête de l'acteur en mars 1975 en regardant un match entre le fameux Mohamed Ali, voilà, et Chuck Wepner. C'était un boxeur de seconde catégorie et qui a tenu tête au grand champion pendant 15 rounds. Voilà,
mais
c'est
oui.
ça. Et c'est ça ensuite l'histoire de Rocky, parce que c'est en fait un mec qui est amateur,
oui.
et qui en invite à combattre un champion.
Parce que le Black, je crois voilà, qu'il s'appelle.
Ça. Ça, je pourrais pas te le dire. Mais c'est grâce à ça qu'il devient un champion. Et puis après, il y a le fameux l'œil du tigre contre Mr. T et son pam, 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 pam. Et puis le contre le russe. Et puis
le 5.
Voilà, c'est ça. Et puis il y a aussi le dernier.
Le 6. Voilà, c'est un entraînateur là.
Voilà, c'est ça, un retraitateur. Et dans le dernier Rocky, Stallone affronte un véritable boxeur. Mason The Line Dixon s'appelle en fait Antonio Tarver.
Oh là là.
Qui a été champion WBC des 1000 lourds.
Dans le 5, tu veux dire là.
Non, le dernier.
Dans le 5.
Voilà.
Le 6.
Non, je sais pas. C'est le dernier, ça s'appelle Rocky Balboa.
Ah bah c'est le dernier. C'est
le dernier. Et en fait, moi je trouve que. Alors autant. Moi j'ai adoré le premier. Parce qu'effectivement, il y a tout ce côté. Parce que c'est vraiment une tête de loser, quoi, ce type. Hein. C'est-à-dire, il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Et je trouve que, comme tu avais parlé du fameux wrestler avec Mickey Rourke, autant ce film-là, le dernier Rocky Balboa, je trouve que c'est ça. Parce que autant l'acteur se confond avec le personnage. C'est-à-dire que tu vois comment il est transformé, Sylvester Stallone. Tu vois comment il est pris par toutes ces métamorphoses chirurgicales. Et tu vois qu'effectivement, il a plus la gloire. Alors évidemment, il a fait les Expendables avec tous ses potes, mais d'avant. Mais voilà, il y a ce personnage-là qui boxe sur un mythe et qui ne sait plus comment le gérer. Parce qu'il y a son histoire avec son fils, là. Et moi, je trouve qu'il est très, très bien fait.
Juste une anecdote, là, donc, contre le combat contre le russe, là.
Ouais, voilà.
Je crois qu'il a échangé quelques coups de poing. Je crois qu'il a cassé 2-3 côtes.
Rodolphe Lang.
Voilà.
Ouais. Qu'on retrouve d'ailleurs dans les Expendables.
Il est plus taillé, quand même.
Ouais, ouais. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Est-ce que Rocky était vraiment fait pour ce genre de rôle? C'est ça aussi ce qu'on se demande. Est-ce qu'il a... Parce que bon, c'est pas non plus un acteur transcendant. Hein, c'est
un mi-moyen.
Oui, non, mais
non,
voilà.
Si tu regardes la boxe, des fois, il y en a qui sont gringalés qui arrivent. Hein. Regarde oui, Brahim Asloum.
Oui, non, mais.
Dans les poids moutes.
Non, mais. D'accord. Mais disons. Non, mais non, c'est. Oui, non, mais après, on rentre dans des catégories. Hein, je veux dire, le mec, il va pas se battre contre Mike Tyson, quoi. Je veux dire, ils sont pas. D'ailleurs, je trouve ça très marrant parce que autant on adore les lourds, c'est-à-dire ceux qui sont plus de 100 kilos, autant sur les mouches. Y a pas beaucoup de films hein, quand même hein. Quelque part tu dis que c'est vraiment les poids lourds qui intéressent
bah, c'est la masse impressionnant, hein.
Oui mais voilà et puis ça me fait penser au fameux film Steel, tu t'en rappelles là avec comment il s'appelle celui qui fait Wolverine là avec ses histoires de robots.
Ah, Heavy oui, Steel qui est sorti il y a pas longtemps.
Voilà c'est ça et ben c'est ça aussi ce côté là puisque dans le héros on trouve un tout petit robot qui est vraiment un outsider et qui va résister pendant plusieurs rounds contre le fameux officiel et qui est déclaré imbattable. Donc voilà, on revient toujours au grand classique du sport.
Il y a aussi un très bon film qui est sorti, qui s'appelle Warrior, en 2011.
D'accord. Et puis, il y a aussi...
Si on a regardé, quand même, les films de boxe ont été quand même super, super bien accueillis. Quand même.
Oui, bah oui, parce que regarde là, il y a Million Dollar Baby de Clint Eastwood, là aussi. Je veux dire, quand tu regardes certains sports... Alors, moi, je dirais, pour être plus exact avec ce que tu dis, je dirais ceux qui sont bons. Des films. Parce qu'après, il y a des pléthores de navets, Dixit, Walt Disney. Et voilà. Mais effectivement, le boxe, c'est le noble sport. Et c'est vrai que ce soit Raging Bull, Ali, tous les Rocky, bon, plus ou moins tous les Rocky, et le Million Dollar Baby, donc, qui raconte l'histoire de cette jeune fille, Maggie Fitzgerald, donc, jouée par Hilary Swank, qui débarque dans l'univers clos de Frank Clint Eastwood et de Scarp Morgan Freeman, qui est un peu l'équipe des impitoyables retrouvés, mais version moderne et dans une salle de combat.
Mais on en avait parlé de toute façon.
Ouais, mais oui, non, mais d'accord. Non, mais certains auditeurs n'ont pas écouté l'émission sur.
Trice.
Et Trice n'ont pas. N'ont pas écouté l'émission sur Clint Eastwood. Et voilà, moi, je trouvais que c'était intéressant.
Oui.
Et puis, surtout que quand même, quelque part, on rentre aussi la femme dans l'univers de la boxe, puisque quand même pour l'instant on a fait surtout des hommes, hein. Je veux pas dire, mais le sport et la femme là aussi on en a peu quoi. Et je trouve que c'était très très bien fait. Bon, la fin est un peu tragique, il est vrai, mais je trouve qu'il est très très bien fait. C'est, tu vois, ces quatre films, ben voilà. Que ce soit Will Smith, que ce soit De Niro, que ce soit Sylvester Stallone à son échelle ou même Clint Eastwood, ben voilà, ils ont su s'accaparer ce sport qui, là, par contre, pas un sport d'équipe, il est vrai, mais quand même un sport noble. Parce que, effectivement, moi, quand je parle de film de sport, tout de suite, on parle des fameux chariots de feu de 1981 de Hugh Hudson, celui qui a fait Greystoke. Pour ceux qui n'arrivaient pas à situer ce brave monsieur Hugh Hudson. Voilà.
Notre brave Christopher Highlander Lambert.
Comme tu disais, c'est le destin croisé de deux athlètes britanniques, Harold Abrahams, qui est donc le fils d'un usurier juif et qui jouait par Ben Cross, hein, et Eric Liddell, qui est Ian Charlton, fils d'un missionnaire, lui-même croyant, et qui ont participé aux Jeux Olympiques d'été de 1924 à Paris. Le premier a dû lutter contre l'antisémitisme et le second défendre ses convictions religieuses protestantes. Alors, il y a eu quelques libertés dans le film, parce que dans la fiction, Lindel apprend qu'il devra courir le fameux 100 mètres un dimanche, ce qui est interdit par sa religion, alors qu'il le savait déjà depuis longtemps. C'est ce qui lui a permis de s'entraîner pour le 200 et 400. Et d'ailleurs, en réalité, gagner une médaille d'or sur le 400, oui. Un 47-6 et donc une bronze sur le 200 mètres. Alors par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, le record mondial est de 43 secondes 18 par le fameux Michael Johnson en 99. Et le record féminin Marita Koch de 1985, donc de la République démocratique d'Allemagne, est de 47-6. C'est-à-dire que si elle avait couru à l'époque avec lui, elle allait arriver en même temps. Donc voilà. Et il y avait eu la fameuse épisode de la chute à cause de l'athlète français qui est véridique par contre. Hein. Et Abraham est un des outsiders lorsqu'il remporte le 100 mètres. Hein. C'était pas le gros champion et il a reçu l'argent en relais 4x100. Et le fameux titre est inspiré du poème de William Blake, And Did Those Feet in Ancient Time, qui a été mis en musique par Charles Hubert Astin Parry en 1916 et qui est une chanson légendaire en Angleterre.
Pour en dire rebondir comme tu aimes avec.
Et toi. D'ailleurs, non, voilà. Et
non, je veux rebondir.
Non, et d'ailleurs, ça a été là parce qu'on a eu les Jeux Olympiques de 2012 qui a rendu un petit hommage à James Bond.
James Bond ?
Oui, oui, tout à fait. Oui, puisque, et il y a aussi, il y avait un hommage fait à ce film aussi. Donc, voilà.
Merci. À vous, Cognac. Alors aussi, moi, je voulais rebondir, comme tu as parlé de Niro. Donc, je vais vous parler du fan.
Oui, le fameux fan.
De 1997, de Tony Scott.
Voilà, le fameux Tony Scott.
Le fameux. Donc, Bobby Rayburn rejoint les San Francisco Giants avec 3 titres de meilleur joueur de baseball de l'année en poche. Mais sa première saison vire au cauchemar. Il joue de plus en plus mal et son fan le plus faible, donc Gilles Renard, joué par De Niro, parce que Bobby est joué par Wesley Snipes, va beaucoup trop loin pour l'aider. Quoi. Ça, on va dire bon.
Oui, voilà, on va pas dévoiler, non. Mais disons qu'il pousse le bouchon un peu loin.
Oui. Donc Wesley Snipes est coaché par...
Carl Ripken Jr.
Ah d'accord, merci. Donc joueur des Baltimore Orioles. Et De Niro, donc lui, il est doublé, je crois, par Mike Sadek. Je crois que c'était un ancien joueur de...
Ouais, des San Francisco Giants des années 70.
D'accord, pendant les scènes de baseball. Alors, il faut dire que là où je trouve le plus représentatif, c'est le football américain, le baseball en film.
Ah, mais ça, et le basket. Le basket, il y en a pas mal aussi.
C'est-à-dire boxe aussi, maintenant. Je trouve que boxe, il y en a quand même pas mal. Hein.
C'est-à-dire que c'est l'avantage, c'est qu'il y a ce côté physique dans la boxe. Et puis, c'est du combat, donc c'est toujours très attirant. Après, quand on tombe du football américain, puisque c'est quand même un très gros budget, puisqu'on le voit dans le fameux film d'Oliver Stone, L'Enfer du Dimanche. Ce film avec Al Pacino, Cameron Diaz, Jamie Foxx, Danny Quaid, et Aaron Eckhart aussi, et qui a inspiré du script de Jamie Williams, un ancien joueur des Francisco 49ers, et par aussi Richard Weiner, un journaliste sportif, donc à la tête des Miami Sharks, Tony D'Amato, Al Pacino, il aime bien le prénom Tony, Al Pacino, et de plus en plus contesté dans ses choix tactiques. L'équipe enchaîne les mauvais résultats et la direction du club met beaucoup de pression sur les épaules de l'entraîneur. Et c'est vrai que dans ce film, on voit tout ce qui est pognon, publicité, les gens qui sont poussés malgré leurs problèmes physiques, parce qu'il y en a plusieurs qui utilisent des produits pour tenir. Mmh. Le fameux Dennis Quaid, il est complètement HS et que sa femme oblige à jouer malgré toutes ses blessures et que lui, il a tout ce qu'il veut finalement s'arrêter parce qu'il est à deux doigts de quand même de crever sur scène. Le stade est une scène, c'est les jeux du cirque quand même. Et c'est vrai que Al Pacino joue un peu lui à l'ancienne et Cameron Diaz, elle joue tout ce qui est le sport moderne, c'est-à-dire le fric et le fric. Quand on le voit dans le fameux film Jerry Maguire aussi avec Tom Cruise et Cuba Junior, aussi, là aussi c'est tout pour le fric, tout pour le fric, tout pour le fric.
Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Rodney ?
Fais-moi palper du blé ! Fais-moi palper du blé !
Du blé !
Et il y a ça aussi, et puis il y avait un autre film
aussi,
le Dernier Samaritain avec Bruce Willis, là aussi, parce que c'est une histoire de Paris, et donc dans le milieu du football américain. Et c'est là où on voit tous les enjeux financiers, puisqu'il faut savoir que c'est le fameux match de fin d'année.
Le Super Bowl,
et recettes publicitaires, à mon avis, ça vaut le PIB d'un petit pays du tiers-monde.
La France, tu veux dire ?
Oui, voilà, par exemple. Il y a tout ce truc financier qui écrase le sport. Il y a pas mal de films là-dessus. C'est-à-dire que tous ces gens-là, et là on le voit aussi dans le milieu de la boxe, hein. Tous les mecs qui sont payés pour se coucher. Là, on est dans un univers paradoxal. C'est-à-dire qu'en même temps, tu as des films qui disent que le sport, c'est beau, que ça permet aux jeunes de sortir de leur ghetto, qu'effectivement, grâce à ça, ils vont avoir des règles. Et en même temps, t'as tout le pourrissement grâce au pognon et les matchs truqués qu'on a eu dans les pays de l'Est, les gens qui veulent pas jouer parce que leur publicitaire, enfin du moins leur fournisseur officiel, veut pas qu'ils portent la marque de l'équipe nationale. Donc voilà, t'as tout ce truc pognon, tous nos joueurs français qui se sont lamentablement vautrés puisqu'au lieu de s'entraîner, ils faisaient leur contrat publicitaire, ben voilà.
Ben ça, de toute façon, on l'a vu encore dernièrement pour les JO, là t'avais un basketteur français qui était pas assuré, je crois, et qui attendait l'aval de son club pour pouvoir faire les Jeux Olympiques.
Et ben moi,
les matchs truqués qu'on a vus aussi en Italie. Là.
Voilà, et puis même ceux qui étaient en Roumanie. Parce que autant le sport, comme dans le film L'Enfer du Dimanche, montre tous les mauvais côtés, le Dernier Samaritain, autant tu as des films comme Rasta Rocket, qui est sorti en 1994 de John Turteltaub.
Balance Man, Cadence Man, trace la classe, c'est le Bob Man.
Courage.
Et bien c'est ça, c'est-à-dire que c'est cette équipe jamaïcaine qui s'est décidée à se lancer sur les pistes de bobsleigh, puisqu'eux ils n'ont pas pu réussir aux jeux d'été, donc ils ont décidé de s'attaquer aux jeux d'hiver, et qui ne connaissaient pas du tout le sport.
C'est un peu dur là, parce qu'en jeux d'été ils ont quand même tout raflé. Hein.
Non mais les héros eux ils n'ont pas pu participer.
Merci
donc,
de
voilà,
le préciser.
Et c'est ça. Et donc ils se sont lancés aux Jeux Olympiques de Calgary en 1988. Donc, et en plus pour l'anecdote, l'équipe n'avait pas vendu la fameuse voiture qu'on voit dans le film, mais des t-shirts. Et c'est le prince Albert qui en avait acheté quand même 500.
Hein. C'est gentil
voilà.
De sa part.
Voilà, tout à fait.
Parce que lui aussi, il a fait les
JO. Oui, parce que c'était un aficionados du bobsleigh, hein, l'équipe de Monaco.
D'ailleurs, il s'était retourné, c'est pour ça que maintenant, il a une calvitie.
Et ben, moi, je trouve que c'est ça aussi l'avantage du sport, parce que...
C'est une belle histoire.
C'est une belle histoire. Ils ont tenté, alors c'est dommage, ils se sont retournés là aussi. Bon, par contre, ils ont gardé leur resta, eux.
Qui les a protégés.
Et d'ailleurs, ça a été aussi la porte ouverte aux petites équipes qui se sont lancées en bobsleigh. Après, ça a été coupé. Et moi, ça me fait toujours penser à ces athlètes sénégalais qui se sont lancés sur les pistes de ski pour battre les fameux blancs en neige. Moi, c'est ça aussi, ce côté des Jeux Olympiques et du sport. C'est-à-dire que des petites équipes réussissent à battre les gros. Je trouve ça extraordinaire. Et c'est vrai que Rasta Rocket, c'est un petit peu d'air frais dans cet univers un peu cynique.
Et impitoyable.
Oui, voilà. Oui, tout à fait impitoyable. Il y a un film, alors, je ne sais pas si tu connais beaucoup, Youngblood.
Ah.
Le film de hockey de Peter Markle en 1986 et qui raconte l'histoire de Dean Youngblood, donc Rob Lowe, hein, et qui découvre le hockey sur glace de haut niveau dans l'antichambre de la Ligue nationale de hockey enfin, il a 17 ans, il est sur des patins et il ne craint personne. Bien décidé à intégrer l'équipe nationale, il rejoint l'équipe canadienne des Mustangs de Hamilton, persuadé que son adresse sur une patinoire lui vaudra l'admiration des foules. Mais Dean découvre rapidement que la vitesse et l'agilité ne font pas le poids face à l'énergie et la harangue de l'équipe des Bombers de Thunder Bay. Non, avec un fameux gros barbu un peu méchant. C'est que grâce au conseil de Derek Sutton, qui est joué par Patrick
Swayze,
le capitaine des Mustangs, voilà, et c'est considéré comme l'un des meilleurs films sportifs, voilà, parce qu'il a propulsé Swayze et Lowe dans l'univers brutal du hockey. Et il faut noter aussi l'apparition un peu fugace de Keanu Reeves, qui était vraiment tout jeune à l'époque. Et c'est vrai que moi, voilà, c'est vraiment un film à regarder, quoi. Alors, effectivement, par contre, je précise...
Le scénario est génial.
Non, c'est pas qu'il soit pas génial, c'est surtout qu'il est un peu désuet. Oh, non, mais je veux dire, maintenant, on est vraiment plus dans un univers cynique.
Bon, on va rester dans l'univers du patin, parce qu'on va parler aussi de rollerball. Rollerball, donc, c'est pour vous dire, donc, c'est un sport hyper violent. Oui. Tous les coups sont permis, puisqu'on retrouve sur le... C'est les deux équipes qui s'affrontent, je crois.
Ils doivent mettre
une sorte de grosse boule dans un trou.
Voilà,
pour marquer les points, et il y a des motards pour les empêcher, et puis différents joueurs, si on peut appeler ça des joueurs.
Voilà, ouais.
Et donc, c'est pas mal aussi. Moi, je trouvais que pour l'époque, c'était pas mal fait, quoi. Parce que c'est un film des années 70.
Voilà,
et je sais pas s'il y a pas Charlton Heston.
S'il y est dedans. Et en fait, le truc, c'est-à-dire qu'à un moment, je pense que. C'est-à-dire qu'on a tous ces sports que les Anglais ont créés, le football, le rugby, le tennis, et ainsi de suite. Et c'est vrai que le cinéma a décidé aussi de créer ses propres sports. Alors, il y a tous les sports automobiles, la chasse à l'homme, Running Man aussi.
Il y a Tron aussi.
Voilà, Tron aussi. Mmh.
À
voilà.
Tron, on dit.
En anglais, Tron. Oui. D'ailleurs, j'irais bien au Tron.
À la foire, tu veux dire, à la foire du
Tron. Mais
oui.
tout à fait. Oui, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, donc sur l'univers du patin, là. Donc c'est pour dire que Dame Drew Barrymore a produit et réalisé aussi un film qui s'appelle Bliss. On parlait tout à l'heure du féminin qu'on n'en voyait pas trop.
Bah oui.
Donc c'est l'histoire d'une ado de 17 ans qui va faire du roller derby à Austin. Tu vois, dedans, on retrouve Ellen Page, qui joue le rôle de l'ado. Tu vois, qui c'est? Elle a joué dans Inception et Juno. Oui, oui. Et il y a aussi Juliette Davis. Bon, c'est un truc qui n'est pas trop mal fait. Et bon, on va dire que c'est un bon passe-temps, mais c'est original. Il y avait aussi donc, un film, puisqu'on reste dans le féminin, La plus belle victoire en 2004 de Richard Blondcrane. Donc c'est le premier long métrage dont le tennis est le thème central. Donc le film a été tourné à Wimbledon pendant le tournoi de 2003. C'est la première fois que des personnes extérieures à l'organisation étaient autorisées à fouler l'herbe des cours londoniens. Le tournage avait lieu le matin avant les matchs officiels. Donc les acteurs principaux, Kirsten Dunst et Paul Bettany, se sont entraînés au tennis durant 4 mois avec l'Australien Pat Cash, qui était à leur côté pour donner quelques conseils techniques. On retrouve aussi dans le film John McEnroe et Chris Evert.
J'espère que c'est pas John McEnroe qui a fait les dialogues, parce que...
You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line. Chalk flew up. It was clearly it. How can you possibly call that out? That he's walking over. Everyone knows it's in this whole stadium, and you call it out?
Ça allait être sévère.
Non, mais tu sens qu'on va dire que c'est encore.
C'est un peu le défaut de certains films, ce que j'appelle des films Disney. C'est pas obligatoirement là sous la marque Disney, mais c'est-à-dire que on va prendre un sport, on va prendre deux personnages, ils vont se rencontrer, ils vont réussir grâce à ça.
Ils vont s'aimer.
Parce que moi, je voulais parler de ça aussi. C'est un peu dans le style Disney. C'est Le plus beau des combats, dont le titre américain est Remember the Titans, qui est sorti en 2001 et qui est de Baz Akin. Et en 1971, l'université C. Williams High School d'Alexandria en Virginie a ouvert ses portes aux étudiants noirs. Le film suit les aventures de l'équipe de football américain où se cristallisent toutes les frustrations et les rancœurs. Donc cette décision de donner un entraîneur noir à l'équipe est là pour exacerber les tensions raciales déjà existantes dans la communauté. Donc voilà, parce que Bill Yates, qui est joué par Will Patton, il va être évincé par le fameux Herman Boone, un afro-américain qui jouait par Denzel Washington. Et en fait, les deux hommes devront se respecter malgré leur tempérament fort différent, parce que autant Denzel Washington est très très dur, style un peu le sergent Hartman, tu vois, dans...
Oui.
Voilà. Et autant l'autre, Bill Yost, lui est très cool, et c'est une histoire vraie. Et ils font de même pour les joueurs de l'équipe, et en leur inculquant des valeurs qui font d'eux des champions respectés. Et c'est vrai qu'il y a toutes ces deux équipes qui sont séparés, donc les noirs et les blancs sont séparés. Et à un moment, l'entraîneur les oblige à dormir dans la même chambre, enfin un noir, un blanc, et d'apprendre comment vit l'autre, quoi. Mm. Et moi, il y a le fameux passage où on découvre le fameux Ryan Gosling, hein, quand même. Pas n'importe qui est amateur de country, et l'autre, par contre, il est vraiment dans les années disco. Effectivement, là, ils ne se comprendront jamais, quoi. Et c'est vrai qu'il y a toute cette histoire-là où, au début, ils se détestent. Enfin, l'entraîneur les a mis à l'écart. Et là, ils commencent à se créer une union entre eux parce qu'ils sont là pour l'amour du sport. Et que l'entraîneur leur a dit, bah, si vous n'êtes pas ensemble, il n'y a personne qui joue.
D'accord.
Et donc, et c'est ça. Et que maman, quand ils vont sortir de cette bulle, et ben, ils vont rencontrer l'incompréhension de leur propre ethnie, quoi. Que ce soit d'un côté les blancs, de ce côté les noirs. Et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir gagner. Alors, c'est pas. Alors, c'est vrai que c'est émaillé de différents problèmes, parce qu'évidemment, toute l'équipe est différente, quoi. Mais je trouvais ce film très, très beau, effectivement, sur le respect aussi de la différence. Et de cette union qu'on peut avoir, effectivement, grâce au sport, sans tomber dans le trop cucugnan-gnan, comme certains films adorent nous le donner.
Je vais vous parler aussi d'un film, là, donc, pour rebondir avec toi, là, donc, encore avec l'acteur Will Smith. S'appelle La légende de Bagger Vance.
Oui, ouais, tout à fait, oui.
2001 de Robert Redford. Mm-hmm. Donc dans ce film, Matt Damon et oulala, ce prénom. Ranulf Junu, un ancien champion de golf, hanté par la Première Guerre mondiale et la Grande Dépression de 1929. Donc Will Smith qui joue le rôle de Bagger Vance, donc un mystérieux caddie. C'est ce que c'est, un qui porte noir qui aide donc Junu à revenir à son meilleur niveau. Donc pour se familiariser avec le green, Matt Damon a suivi des cours particuliers pendant un mois avec Tim Moss, un golfeur pro. Même si c'est une fiction, le film fait intervenir deux golfeurs de renom, Bobby Jones et Walter Hagen. Le premier a créé l'US Masters en 1934 avec Clifford Roberts. Quant au second, il a remporté l'US Open et la British Open plusieurs fois. Moi, je trouvais que ce film était aussi très très beau. Et
ouais.
Côté France, monsieur, alors que se passe-t-il alors,
voilà,
côté France
Eh ben, bizarrement, on a les films de foot qui sont le fameux coup de tête de Jean-Jacques Hano en 1979 avec Patrick Devers, donc ce fameux François Perrin qui est un joueur de foot à Trican et qui est exclu de l'équipe après une altercation avec la star du club, Berthier. Alors, à cause de ça, puisque carrément le pays ne vit que grâce au foot, et ben il va être viré de son usine, accusé d'un viol et même enfermé en prison. Et c'est grâce qu'il y a un accident avec un car. Et ben là,
l'équipe, tu veux dire.
L'équipe a perdu un de ses joueurs et on ne voit que Perrin pour sauver l'équipe. Il sera libéré et marquera les fameux deux buts de la finale de la Coupe de France. Et c'est grâce à ça qu'il va devenir carrément le champion et il se vengera la fin. Et là, elle est pas mal cette vengeance. Hein. Je t'avoue qu'elle est très bien faite. Alors, effectivement, il y a des acteurs de l'acteur studio comme Guy Roux, là, qui sont marqués comme conseiller technique.
Et tu avais des vrais footballeurs aussi, pro.
Oui, parce que la scène de la finale a été tournée à la mi-temps d'un match mythique. Alors là, parce qu'on a Barcelone-Madrid, mais nous, attention, c'est Auxerre 3. Hein. Là, moi, je dis... j'ai eu des chocottes. Là. Avec des vrais joueurs, dont le fameux Jean-Luc Maricelli. Et il y a le fameux 3-0. De Fabien Antoniente en 2002.
Ah oui, avec Stomy Bugsy.
Voilà, Stomy Bugsy. Et Laurent Deutsch qui ont dû suivre un entraînement de 2 mois au camp des loges.
PSG.
Voilà, pour apprendre à perdre. Voilà, parce qu'en fait, tout commence en prison, dans un match de football. Et Tibor Kovács, Laurent Deutsch, un jeune hongrois, fait des prodiges avec le ballon. Et c'est un véritable virtuose et il rêve de jouer en équipe de France. Je comprends pas pourquoi il veut pas jouer avec son équipe nationale, mais bon, il a décidé. Voilà.
Pourquoi pas, hein.
Et pour Manu, donc Samuel Le Bihan, c'est en compagnon de cellule. Tibor est un cadeau du ciel. Il part pour le Brésil et il va convaincre Alain Colonna. Gérard Lanvin, un ancien légende du football en retraite, anticipe pour reprendre du service. Et il faut aussi noter la présence d'Isabelle Nanty, qui joue une capitaine d'équipe féminine et qui est pas mal tout le long du film. Voilà.
Si on continue comme ça, c'en est fini du foot féminin. à Arpajon.
Alors créatine pour tout le monde.
À mort l'arbitre, hein. Jean-Pierre Mocky, celui-là,
ouais,
qui est terrible aussi.
Ouais, celui-là aussi.
Avec Michel Serrault, l'arbitre, je crois que c'est Eddy Mitchell.
Ouais.
Et moi, je trouve... Carole Laure aussi, voilà. Vous savez, qui faisait la pub pour les savons.
Ouais.
L'histoire, je crois, donc c'est l'arbitre, donc joué par Eddy Mitchell, qui siffle pas d'ailleurs le penalty. C'est ça, il me semble qu'il y avait penalty. Et après, voilà, donc Michel Serrault, qui s'appelle Rico, il me semble, il joue le rôle des leaders, des supporters. Enfin bon, qui.
Ouais, voilà, le chef.
Donc après, il s'engage une poursuite envers l'arbitre et.
C'est très marrant parce que ce soit coup de tête.
D'ailleurs, il finit très mal.
Oui, il finit très mal. Mais c'est marrant parce que ce soit à coup de tête, à mort l'arbitre, c'est vrai que c'est vraiment une époque.
Bah ça, je trouve que ça montre bien aussi les hooligans. Quoi.
Ça, c'est vrai que c'est des films plus sérieux avec tous les dommages collatéraux qu'entraîne le sport. Alors, peut-être que coup de tête, moi je dis, c'est pas parce que c'est le foot. Ouais. C'est vrai que c'est.
Je trouve qu'à mort l'arbitre, il va franco. Quoi.
Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a le fameux donc 3-0. Alors, c'est là où je me dis.
Il y a Didier aussi.
Oui, il y a Didier aussi. Mais moi, je trouve ça très marrant que les Américains fassent l'enfer du dimanche et que nous, on fasse 3-0. Voilà. Ouais. Et il y a le prochain film là, qui va sortir, donc Les Seigneurs d'Olivier Dahan.
Ah oui.
Donc, avec José Garcia.
Je suis en contact avec un attaquant roumain.
Et alors ?
Bah, il lui manque une jambe.
Franck Dubosc.
Voilà, qui va jouer un entraîneur et qu'on décide d'envoyer à Molène, qui voit Molène, voit sa peine, et qui va décider de récupérer tous ses anciens joueurs.
Parce que c'est France 98, quoi.
Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il y a Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Joe Starr.
Putain ! Vous me surprenez de moi, bordel !
Ramzy.
Comment aurais-je pu savoir qu'elle était mineure ?
Elle me dit, j'ai 32 ans.
Et qui ont des coiffures. Et puis Omar Sy qui joue un peu notre fameux buteur contre les Croates.
Thuram.
Voilà. Et je pense que celui-là, il faut vraiment aller le voir.
Tournée générale.
Pourquoi il l'appelle général? Il l'appelle pas général, c'est la tournée générale. Pourquoi tu m'appelles général, moi? Je t'appelle pas général. C'est qui le général? C'est la tournée. Général.
Ces mecs, effectivement, ils sont tous entre guillemets has-been. Donc, quand le mec vient le chercher pour venir jouer dans son équipe, l'autre il se croit tout de suite que ça va être le Barça et tout. Mais là, l'autre il dit bah non, c'est peine. Et puis, il y en a, je crois que c'est Franck Dubosc qui lui se prend pour Cantona et qui décide d'être un acteur plus qu'un. Voilà. Et c'est vrai que moi je trouve que celui-là, à mon avis, il vaut vraiment le coup d'aller le voir. Quoi. C'est bon. Mais après, c'est vrai que moi je me pose toujours cette question, pourquoi chez les Américains le sport est si sérieux alors qu'en France c'est tout de suite sujet à galéjade?
Bah, tu le vois de toute façon dès l'université. Hein.
Oui,
les joueurs, déjà, le sport a chez eux une place primordiale, je pense, dans les études. Hein.
C'est ça, il y a le fameux film Blue Chips de William Friedkin en 1994, où on voit Nick Nolte qui joue le rôle d'un coach prêt à tout pour faire gagner son équipe. Et en fait, Blue Chips a le mérite d'être le premier long métrage qui raconte sur ce sport avec les apparitions de Shaquille O'Neal et de Penny Hardaway. Blue Chip, ça désigne la chasse aux jeunes basketteurs talentueux et les recruteurs proposent souvent des grosses sommes aux joueurs universitaires pour qu'ils rejoignent les parquets de la NBA.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a tout ce côté-là. Parce que
en France, nous, c'est les centres de formation.
Voilà, tellement il y a un business derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as tous ces jeunes qui suivent des cours à l'université, mais qui font que acte de présence. Et c'est souvent, il y a dans des films américains, on voit effectivement ces gens-là qui disent que si jamais ils participent à leur match, ils n'auront pas leur diplôme. Quoi.
Tu le vois dans Scream, ça.
Voilà, c'est
le
ça.
Neneu, là, qui joue le grand sportif, et enfin, il ne fait que ça, lui, qui est capitaine de l'équipe, là, et voilà. Aux études, il ne fait rien.
Oui, mais c'est souvent des grands bonnets. Enfin, on les fait passer pour des grands bonnets qui savent à peine lire et écrire, puisqu'ils sortent de leur ghetto. Donc, ils ont tous les stigmates de leur milieu socio-culturel. Et. On les lance là-dedans et ils sont obligés de subir toute la pression. C'est-à-dire que même s'ils sont blessés, ils sont obligés parce que sinon, ils perdent tout. Et ils n'ont pas leur diplôme et après, ils ne sont rien. Donc, c'est vrai que c'est un peu le dommage collatéraux. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de films là-dessus. Quoi. Bon, là, on va en laisser un pléthore avant de se lancer sur la Croatie, sur le Pestel. Parce qu'il y avait aussi, comme tu as parlé de Tony Scott, il y avait aussi le fameux joueur de tonnerre, Tom Cruise, qui joue...
un pilote, NASCAR.
Cole Trickle.
Et qui a rencontré sa douce Nicole Kidman.
Voilà, sur le lieu du tournage, effectivement.
Tu as aussi Driven dans ce style,
ouais,
avec Sylvester Stallone sur la Formule 1.
Voilà, c'est ça. Oui, parce que là, sur ce film-là, en fait, ils voulaient faire un film sur Ayrton Senna. Stallone, il ne pouvait pas jouer Senna. Quoi. Donc, en fait, ils ont fait un film catégorie B en disant, bon, bah, va quand même faire le...
Nous aussi, on a trop un nanar, puisque c'est Michel Vaillant.
Oui, ça
alors
aussi.
Alors là, quel daube humaine.
Oui, mais alors ça suivait plus la BD. Tu vois,
non, oui, mais bon...
Parce que là... Non, mais moi j'ai jamais compris Michel Vaillant. Hein. Le mec, il... Bah, c'est-à-dire qu'un jour, il fait de la Formule 1, un autre jour, il fait du rallye,
un autre jour, il fait des protos et il arrive à gagner quand même des trucs. Moi, logiquement, quand t'es Schumacher, tu fais les 16 courses de Formule 1 et puis c'est de faire.
Voilà.
Il est bon sur les pistes, il est bon sur le terrain et il est bon en endurance. Moi, je dis bravo, chapeau bas.
Voilà. Donc on peut pas vous laisser comme ça sans parler du célèbre le triporteur 1957 Jacques Pinotto. C'est donc le triporteur, c'est il suit les aventures, enfin le film pardon, suit les aventures d'Antoine Perabou, ça c'est du nom, un jeune garçon maladroit parti en vélo à Nice pour supporter son équipe de foot préférée là aussi. Il arrive tant bien que mal à Nice et remplace le gardien bon suite à des histoires parce que sa femme l'a fait cocu pour faire plus simple au gardien. Donc il remplace le gardien, il stoppe donc toutes les tentatives de l'avancement de l'équipe adverse et donc inscrit même le but de la victoire. Donc c'est le film qui a fait connaître une grande star du cinéma français.
Darry Cole.
Voilà. Et il y a même une suite qui s'appelle Robinson le triporteur. Pour rester aussi dans le milieu du cyclisme, il y a aussi le vélo de Gilles Lambert.
Oui, aussi. Ouais. Et puis, enfin, après, il y a des petits passages. Ça me fait penser au match de foot dans Camillo, là aussi.
Oui.
Hein. Là, il y avait tout ce entre les communistes donc, et Camillo les catholiques, et voilà. Et Pépon.
C'est dans Petit
ça,
Monde de
voilà,
Camillo.
C'est ça. Et il y avait aussi ce fameux François Cluzet dans le film avec Isabelle Adjani et Alain Souchon dans L'été meurtrier, là tu sais où lui il veut gagner absolument. Et moi je dirais, parce qu'on va arriver vers la fin, à part si Hugo tu nous as 142 films, parce qu'il y avait d'autres films sur les 24 heures du Mans et tout.
Il y a Le Mans d'ailleurs.
Ouais, Le Mans, avec
Le Mans et Grand Prix.
Ouais, avec...
Il n'y en a pas un avec Steve McQueen aussi.
Voilà, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça.
Bah,
c'est,
Steve McQueen, il y en a un autre aussi, je crois que c'est Grand Prix qui est avec un mec très connu aussi.
Oui, avec Paul Newman.
Voilà, c'est ça.
Et donc,
ils sont très très bien aussi ces deux films.
Ils sont très bien. Après, c'est une autre époque. Hein.
Oui.
Là, maintenant, on est vraiment dans, c'est plus les jours de tonnerre, c'est-à-dire qu'il faut que ça explose, il faut que ce soit toujours limite. Moi, je dirais, le sport dans le cinéma, ça peut être très bien quand on rencontre une biopic, c'est-à-dire donc l'histoire d'un, comme Raging Bull d'une véritable star. Ça peut être bien pour tout l'esprit que ça véhicule, sans tomber dans le gnangnan. Par contre, il y a un seul gros défaut dans le cinéma et le sport, c'est cette tendance à marquer des 3 points au basket à la dernière seconde.
Ça existe.
Gagner,
ça,
hein. Oui, non, mais
on l'a vu avec l'équipe de France de basket.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais c'est pas tous les matchs, il faut arrêter.
Si deux matchs de suite, on l'a fait. Cocorico.
Oui, mais d'accord. Enfin. Les victoires avec une seconde où il faut le flash pour savoir qui c'est qui a gagné. Voilà, moi, c'est les grands classiques, le ralenti avec le truc où tu sens que c'est perdu, mais le mec, il va gagner quand même. Voilà, moi, je trouve que c'est un peu dommage.
Ça reste du cinéma, monsieur.
Oui, non, mais d'accord, mais après, c'est des facilités scénaristiques que je ne suis pas d'accord. Voilà, et puis, je voudrais surtout appeler tous les réalisateurs, monsieur Scorsese, Cronenberg, Peter Jackson, Spielberg, s'ils pouvaient faire un film sur le curling, parce que je pense qu'il y a un vide là. Et donc j'appelle tous les grands réalisateurs s'ils pouvaient faire un film sur le curling, parce que je pense que pour l'avancée de l'humanité, pour l'avancée du cinéma, pour l'avancée de l'acteur qui osera faire ce film, je pense qu'on doit ça à ce sport si méconnu.
Je sais pas s'ils ont pas fait déjà un film américain un peu naze sur le curling.
Non, mais un vrai film
parce
avec
qu'il y avait Booming aussi avec
avec Leonardo qui s'allonge et tout.
Qu'est-ce que tu as contre Leonardo? Mais laisse le tranquille.
Mais non, mais c'est la banquise.
Laisse le voguer.
C'est sur la banquise.
Ah oui,
c'est,
oui.
Et en arrière fond un Nelson Manfort qui dirait it is wonderful, c'est formidable. Leonardo is couché, Leonardo is down on the glass, Leonardo is wonderful, Leonardo, can you repeat the question? Est-ce que tu peux...
Non, il serait parti avant, je pense. Elle est tellement longue, la question.
Oui, ça, j'ai adoré quand les athlètes...
Surtout les mecs de la natation qui sortent du bassin, ils n'en peuvent plus.
Non, mais il y avait un athlète de course, je ne me rappelle plus qui c'est.
Il s'est barré, je crois. Hein.
Oh, oui, il s'est barré parce que la question était trop longue, quoi. Mais bon, c'est notre Nelson et voilà.
Oui, on le sort tous les 4. Hein.
Ah non, mais moi, je trouve qu'il est extra. Donc, effectivement, s'il pouvait apparaître dans ce film sur le curling.
Voilà. Curling, ouais,
est-ce que tu as une conclusion à faire, mon cher Hugo, sur le sport?
Il y a beaucoup de sports. Donc déjà, je pense que c'est les plus connus, les plus médiatiques. C'est là où on trouve où il y a le plus d'argent, en général. Parce que je n'ai pas vu, comme tu dis, un sport sur le ping-pong non plus.
Oui,
Bah, à part peut-être des documentaires après spécialisés, mais ouais, non, quand même c'est pas spécial.
Bah, c'est-à-dire que c'est un peu le défaut, c'est parce que le football américain, bon, à part aux States,
c'est le sport national.
Voilà, hein. c'est ça. Le baseball, ok, puisqu'il y en avait aussi un pléthore avec les Kevin Costner et autres, et Tom Selleck aussi.
Il y a aussi Joula comme Beckham. Qui
voilà,
est pas
c'est
mal
ça aussi, ouais. Et c'est vrai qu'il y a tout cela.
Qui après, fait intervenir les hindous.
Ouais, c'est la communauté indie, ouais. Et c'est vrai qu'après, il y a eu tout le football en Angleterre aussi, oui. Parce qu'on n'a pas parlé de ce
qu'il y a. Un film qui s'appelle Hooligan aussi.
Voilà, c'est ça, et autres. Looking for Eric, dont tu as parlé au début, et que nous n'avons pas développé. Et je trouve qu'effectivement, les Anglais aussi ont fait beaucoup de films. Alors, le problème, c'est qu'on ne rentre pas dans des catégories, mais c'est vrai qu'il y a le film, le top, et puis celui qui reste un peu moins connu, quoi. Mm. Donc voilà, où le football n'est que prétexte à faire un film, quoi. C'est pas
exactement.
Vraiment... Donc voilà, moi je trouve.
Où on en parle dans d'autres films comme dans Taxi.
Voilà, c'est ça aussi, ouais.
À un moment, tu vois l'équipe de Marseille, enfin bon, le commissaire qui rentre sur le terrain, enfin c'est n'importe quoi à la fin, comme d'habitude.
Voilà.
T'as aussi le Gentleman d'Epson qui parle un peu d'hippisme.
Ouais, et puis.
T'as aussi les ripoux, ils parlent aussi un
oui,
peu
de
turf.
Turf.
Ouais.
Donc à partir du 24 au 27 septembre.
3,50€.
Voilà, le théâtre de Die va proposer 5 films croates, donc absolument à regarder. Le Passeur d'espoir de Branko Schmidt, Juste entre nous de Rajko Grilić. Alors excusez-moi pour la prononciation, hein. J'ai pas fait croate en troisième langue. Et Ginko Linka de Dalibor Matanić, qui a fait aussi Mère Asphalte et Daddy. Moi je ne connais pas à fond le cinéma croate, mais je pense et j'invite les gens à aller voir, notamment pour aider le festival Est-Ouest et pour découvrir aussi un autre cinéma, cinéma au Balkan.
Pas cotise. Alors moi je vais parler du Rocher.
Ah, tu parles de Monaco encore ?
Oui, c'est ma passion.
Ah ouais ? Ah, je savais que tu es notre Stéphane Bern à nous.
Donc, Près du feu, d'Alejandro Fernández Alejandras. Voilà, je n'ai pas bien prononcé parce que c'est fait exprès. Alors, donc ça, c'est un film qui passe au cinéma. Donc, Daniel et Alejandra s'aiment depuis quelques années. Ils approchent tous les deux de la quarantaine, comme Gwen, et s'embarquent dans une nouvelle aventure. C'est pas lui. Tenter leur chance à la campagne chaque jour, mais par les activités agricoles et les retrouvailles à la maison. Mais Alejandra souffre d'une maladie grave qui ronge lentement leurs rêves. Daniel et Alejandra apprennent à affronter quotidiennement les difficultés propres à la maladie. Daniel découvre peu à peu l'ambiguïté de ses sentiments. Donc ce qu'il y a à voir est immense et superbe. Les paysages et les visages, l'amour et le partage, le plaisir de jouer avec un chat. Miaou ! Merci Gwen pour le bruitage du chat. De s'asseoir sur un traîneau...
Non, tu fais vachement bien le chat, bravo.
Oui, oui, mais j'ai pas de minou. De s'asseoir sur un traîneau de bois non loin de la cordillère des Andes et de prendre des photos. Donc c'est un superbe hymne à l'amour et au temps, simplement. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, ça ?
Bah, elle condore pas ça !
Elle condore pas ça, t'emmêtes, moi, elle condore pas ça.
Eh oh, tu vas te calmer, Garfunkel. Hein.
Non, je m'appelle Simon.
C'est moi, Garfunkel.
Donc, et le deuxième, c'est Camille Redouble. C'est un film de et avec Naomi. Naomi, on dit ?
Naomi Campbell ?
Non, Noémie.
Roots ? Rapace ?
Orlotsky ?
Rouchki.
Oh, j'ai mal écrit, je crois. Donc, il y a Samir...
Nasri ?
Non, Gemi. India... Putain, j'arrive plus à me relire, c'est terrible. Ça. Judith Chenla et Julia Fort. Bon, désolé, vous avez cacheté le programme. Alors, présenté à la quinzaine des réalisateurs comme... Cannes 2012. Il a eu le prix SASCD. Il a eu aussi le prix Variety Piazza. Grand Award, 65e festival de Locarno 2012. Camille a 16 ans lorsqu'elle rencontre Eric, là aussi. Ils s'aiment passionnément et Camille donne naissance à une fille. 25 ans plus tard, Eric quitte Camille pour une femme plus jeune. Oui, ça la mode. Donc le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée dans son passé. Elle a de nouveau 16 ans, elle retrouve ses amis, ses parents, ses amis, son adolescence et Eric. Va-t-elle fuir et tenter de changer leur vie à tous deux ? Va-t-elle l'aimer à nouveau alors qu'elle connaît la fin de leur histoire ? Derrière la comédie nostalgique, parfois mal ficelée, se profile la folie d'une actrice moins réalisatrice. Cela force un peu l'admiration, célébration de l'amour sous toutes ses formes, donc filiale, maternelle, amoureux, amical. Donc Pamir Redouble est un très beau film sur la perte.
D'accord, ok.
Et donc, la semaine prochaine, Monsieur Gwen ?
Eh bien, la semaine prochaine, nous parlerons d'un type dont on a parlé la semaine dernière.
Moi ?
Oui.
Oh, c'est cool.
Voilà, on va parler d'une heure de toi, ta vie, ton œuvre, ton pédalo. Moi, je dis que toutes tes réalisations, parce que sans toi, quelque part, le cinéma ne serait pas ce qu'il est. Et je pense que moi... Je me fais le porte-parole.
C'est un réalisateur ou un acteur ?
Oui, c'est le réalisateur. Eh bien, moi, je voudrais qu'on parle la semaine prochaine.
En français ?
Non.
Encore en américain ?
Oui, bah, désolé, hein, c'est le cinéma américain. Parce que...
Qui ça peut être ? Il est super connu ?
Ouais, on a parlé...
Quentin Tarantino ?
Non. On a parlé de deux de ses personnages, de trois de ses personnages la semaine dernière, d'un ordinateur, d'un Jones.
Kubnik.
Voilà. Henri Kubnik, voilà. De sa fameuse salle. Voilà.
D'accord, de Stanley alors.
De Stanley Kubrick, voilà.
Bon, ben la conclusion, c'est une conclusion, donc nous allons conclure.
Voilà, et ben je dirais, ma foi, vive le sport sur Diwa et...
Vive le sport sur, avec Gérard. Allez, hasta la vista.
Ouais, allez, ciao, ciao et bon match.
Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je